Aménager demain. L'émission de l'aménagement durable et responsable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Aménager demain, une émission en partenariat avec l'UNAM, ici en direct du Salon des maires et des collectivités locales. On est à Paris, porte de Versailles, et on va discuter d'un sujet brûlant et qui a fait bondir et qui n'a pas fini de faire couler les langues et délier les langues, notamment celles des maires. C'est la question du ZAN, ZAN pour zéro artificialisation nette. On dira ZAN désormais dans cette émission parce que c'est long et compliqué à dire. En tout cas, ça déchaîne les passions. Est-ce que c'est une bonne mesure dans sa conception, peut-être dans son application? Là, c'est beaucoup plus contesté. On va en discuter avec des spécialistes autour de la table. On est ravis d'accueillir François Rieussec. Bonjour François, vous êtes président de l'UNAM. Bienvenue à vous.
Bonjour.
On a un maire, notre grand témoin, c'est maire de Nogent-le-Rotrou, mais également président de l'association des petites villes de France, c'est Harold Urvard. Bonjour Harold.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Françoise Rossignol, vous êtes première vice-présidente de la Fédération des Scots. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Les Scots, schéma de cohérence territoriale. Et enfin, Nicolas Gravic, du côté des aménageurs, directeur chez FH Aménagement. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On démarre avec vous, François, si vous le voulez bien. Quand on parle du ZAN, zéro artificialisation nette, c'est vrai que voilà, tout le monde était plutôt très enthousiaste à l'idée justement de faire cette nouvelle mesure, cette conciliation, parce qu'on ne peut pas bétoniser la France à l'infini. Et pourtant, dans son application, c'est là où ça commence à pêcher un peu, et vous êtes assez critique.
Alors oui, parce que nous sommes partis de l'idée qu'avait lancée l'Europe il y a une dizaine d'années, qui est que le foncier, le sol a des fonctions qui sont des fonctions de production agricole, de résilience climatique par les arbres, la végétation, de stockage de carbone et d'eau, et puis de biodiversité nécessaire à la vie.
Bien sûr.
Et le Covid nous l'a rappelé si besoin était. Et autant on peut agir, on doit agir sur ces grandes fonctions, autant l'application qui a été faite une fois que la loi a été votée est arithmétique, abrupte, elle vise à diviser par deux la capacité à loger nos concitoyens, également à fournir l'emploi. Vous savez qu'on crée 300 000 postes de travail par an.
Bien sûr.
Donc peut-on enlever les moyens d'agir au territoire et à la qualité de vie de nos concitoyens.
Voilà, puisqu'on a désespérément besoin de logements. C'est vrai que la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, s'en est fait l'écho. En ce moment, c'est à l'arrêt, justement à cause de ces mesures extrêmement restrictives. Françoise Rossignol, comment vous envisagez, vous appréhendez ce problème de la ZAN?
Ce problème, nous l'envisageons de façon assez pragmatique. Nous partageons les objectifs. La sobriété, d'ailleurs, beaucoup de collectivités ont déjà mis en œuvre des mesures dans leurs documents d'urbanisme qui vont vers une plus grande sobriété.
Oui.
Donc la sobriété, nous partageons, ce sont un certain nombre de critiques que nous formulons sur la méthode. Alors, si vous voulez que je développe, je peux le faire. C'est-à-dire d'abord, diviser par deux, ok, mais quel est le point de départ? Et aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité d'observer sans contestation. Ce sont des outils à construire. Ensuite, on voit bien que répartir l'obligation de diminution de façon uniforme sur l'ensemble des territoires pose problème. Alors déjà, au niveau de l'ensemble des régions, il y a un certain nombre de grands projets nationaux qui impacterait certaines régions de façon très inégale. Alors, je suis des Hauts-de-France, je vais prendre l'exemple des Hauts-de-France. Si vous supprimez le canal Seine-Nord, les parkings Brexit qui font des centaines d'hectares, la voie ferroviaire, et je ne parle pas du port de Dunkerque, il n'y a plus rien à partager. Donc, à ce moment-là, si tout ça est pris sur le compte régional, quid du développement de la région. Donc sur cette région, mais sur d'autres. Bon, après, on peut se poser la question d'équipements particuliers sur une région. Va-t-on impacter un hôpital régional uniquement sur la commune où il est implanté? Ce qui signifierait que cette commune ne pourrait plus avoir accès à de l'habitat, ne pourrait pas développer d'autres types d'emploi. Et donc toutes ces questions-là sont des questions majeures sur lesquelles les conférences des SCOT qui se sont réunies et qui ont travaillé, puisque les élus locaux travaillent dans le sens de donner des recommandations aux régions qui devront adapter les documents d'urbanisme, donnent des recommandations de manière à ce que, suivant les régions et sur des problématiques différentes, puisque toutes les régions ne sont pas identiques, on puisse rendre le document le plus adapté possible, avec un certain nombre de modifications incontestablement de la loi, puisque par exemple le compte national n'est pas pris en compte dans la loi et que là il faudra une modification de la loi pour qu'on puisse aller dans cette direction.
Très bien, voilà des exemples très précis. On va continuer justement avec le maire de Nogent-le-Rotrou, mais également, je l'ai dit, président de l'association des petites villes de France, Harold Urvard. Qu'est-ce que vous pensez justement vous, de cette ZAN? Quelles sont les remontées du terrain des petites villes?
Il y a, comme ça a été dit, un consensus sur les objectifs globaux et finaux de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à consommer autant de foncier qu'on le fait. On ne peut plus continuer à avoir aussi peu de considération pour la nature des projets et pour la qualité du foncier qu'on dilapide pour des projets dont l'utilité, par ailleurs, est parfois reste à démontrer. En revanche, comme tous les maires, on a découvert la règle une fois qu'elle avait été adoptée, c'est-à-dire qu'avec un niveau de concertation assez étroit parce que tout a été adopté assez vite. Et on est aujourd'hui confronté à des situations qui sont assez paradoxales, voire absurdes.
Alors, c'est-à-dire, exemple.
Par exemple, Madame Rossignol le disait, l'idée que dans la période transitoire, dans les 10 années qui viennent, les collectivités ne pourront consommer que la moitié du foncier qu'elles ont consommé dans les 10 années précédentes. Donc ça a pour effet, de façon très évidente, de faire en sorte qu'une collectivité qui a déjà fait énormément d'efforts de sobriété foncière, de reconversion, de friches, qui a fait très attention et qui a investi énormément dans des projets qui sont coûteux, parce que plutôt que d'investir sur des terrains neufs, reconvertir des terrains anciens, ça coûte plus cher. La collectivité qui fait cet effort-là et donc qui a consommé peu de foncier va être pénalisée, alors que celle à côté...
Elle est pénalisée pour avoir été bonne élève, finalement.
Elle est pénalisée pour avoir été bonne élève, alors que la collectivité, l'intercommunalité d'à côté, qui a fait des grandes surfaces, des lotissements à chaque sortie de village...
Des grands parkings
et tout ce que vous voulez, va avoir deux fois plus de foncier que les autres. Donc ça, c'est un premier exemple d'une absurdité qui n'est pas tenable dans le temps et qui fait que... plutôt que d'avoir une règle une règle générale, il faut impérativement prendre en compte la qualité des projets et le foncier disponible. On a un sujet majeur pour le développement en nombre d'habitants qui d'ailleurs du coup cette mécanique va avoir comme conséquence d'avantager encore pendant 10 ans les grandes métropoles aux dépens des territoires les plus fragiles. Et puis il y a un sujet sur le développement économique. Moi je suis élu d'un territoire qui est assez industriel. Je n'ai bientôt plus que vu le nombre de projets d'investissement industriel qui sont majeurs là, avec la suite du plan de relance. Nous n'avons de moins en moins de foncier. Moi, 2 hectares. Je suis vice-président à l'économie de ma région. Les grandes agglomérations n'ont quasiment plus de foncier. Nous sommes dans la situation où nous refusons des projets de développement industriel parce que nous n'avons plus de foncier. Et donc, je dis simplement que l'État a mis 110 milliards sur la relance industrielle, maintenant France 2030, le PIA.
Mais il n'y a plus de place.
Si on a déjà qu'on n'a pas de main d'œuvre, si en plus on n'a pas de terrain et pas de bâtiment, la reconquête industrielle de la France va très vite arriver à un plafond inévitable.
Donc objectif louable, mais dans l'exécution, ça pêche un peu. C'est ce qu'on retient en tout cas de premier tour de table. On termine avec effectivement Nicolas Gravitte. Vous êtes chez FH Aménagement. Alors chez les industriels, on a l'habitude de s'adapter. De toute façon, hein, on est agile. Pour autant, vous aussi, quel est votre point de vue justement sur cette mesure?
Nous sommes agiles et nous sommes, comme tout le monde autour de cette table, d'accord avec les objectifs initiaux de cette loi. C'est une évidence. Donc un groupe comme le nôtre qui travaille sur tous les territoires de notre pays, voire même à l'international, on est confronté, qu'on soit en milieu urbain, en milieu dense, en milieu périurbain, à ces sujets. Et donc on s'adapte. Et notre volonté, c'est de, en tant que professionnel de l'aménagement, c'est de dire que de manière opérationnelle, et si les dispositifs sont prises en compte au niveau local, au niveau des bassins de vie, ben nous, professionnels, on va s'adapter. On fait face à un certain nombre d'injonctions contradictoires. Aujourd'hui, on se pose des questions sur quel territoire devons-nous investir, où devons-nous produire du logement, où devons-nous produire de l'activité. On regarde tout type de territoire, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu périurbain. Et donc, le ZAN nous impacte aussi. Je souscris complètement ce que vous venez de dire sur le développement des activités économiques dans un certain nombre de territoires. On a été confronté à des discussions avec un certain nombre d'élus qui nous ont dit exactement la même chose. Donc on doit s'adapter. Et nous, ce qu'on dit, c'est que à partir du moment où la collectivité locale a pris en compte dans ses documents d'urbanisme des choses raisonnables qui tiennent compte des problématiques de densité en zone dense, en zone centre, et des problématiques d'extension urbaine, on peut y arriver. Et à ce moment-là, on peut travailler sur les friches en milieu dense, les friches en milieu périurbain. On parle toujours des friches commerciales, c'est un vrai état de fait dans certains secteurs, mais aussi les friches de l'État. Et l'État doit aussi montrer l'exemple. Il y a un certain nombre de fonciers disponibles de l'État qui ne sortent pas ou qui ont du mal à sortir malgré toutes les annonces qui ont été faites dans le temps. Et quand ça se fait, ça prend un temps fou. Donc on a cette contradiction. Et aussi, l'idée de cette loi, c'est de retravailler la ville sur la ville, rechercher à densifier, mais aussi que cette densification soit acceptée. Et aujourd'hui, on regarde, dans les grandes métropoles, là où on peut estimer qu'il y a de la densification, elle n'est pas forcément acceptée. Et on a constaté, depuis notamment les dernières élections, depuis le phénomène du Covid, etc., un certain frein d'un certain nombre d'élus sur le lancement d'opérations qui nécessitent une certaine forme de densité. Donc oui, c'est un sujet, on s'adapte, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions et l'aménagement, le métier d'aménageur, quel que soit son statut, qu'il soit public, privé, a beaucoup de réponses à apporter et ça permet aux élus de contrôler un développement qui ne soit pas anarchique.
En ouverture du débat sur la transition écologique avant-hier, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a justement les doléances de certains. C'est vrai que dans certaines mesures, on en a cité quelques-unes, il y en a une qui consiste aussi à considérer les parcs et jardins comme de l'artificialisation. Voilà. C'est vrai qu'il était temps de se mettre en arme. Il va dire que ça va être. Il y aura sûrement une nouvelle mouture de texte réglementaire. Est-ce que, François Rusec, pour vous, c'est important que ça soit revu et corrigé?
C'est indispensable. C'est indispensable de sortir d'une vision arithmétique. Je rappelle quand même que la France est le pays d'Europe qui a la plus grande croissance démographique et qui a pris des postures. Cette loi qui est la plus dure en Europe, la plus restrictive, et à contre-temps, contre-point. Donc 22 000 hectares urbanisés par an, c'est 0,4 pour 1000 du territoire. C'est-à-dire qu'en 30 ans de croissance démographique, on urbanisera 1%, c'est-à-dire qu'on passerait de 8,5% à moins de 10% d'urbanisés. Donc on n'est pas. L'objet foncier me paraît pris à contre-pied. Il faut vraiment viser une qualité de l'urbanisation, c'est-à-dire, on parlait des fonctions des sols, c'est-à-dire la résilience climatique dans la ville. Faut-il bétonner les parcs et jardins pour densifier la ville ? Est-ce qu'on va détruire là où il y a de la résilience climatique pour faire des îlots de chaleur ? Vous voyez ? Donc on doit impérativement...
Non, justement, on est quand même plutôt dans l'inverse aujourd'hui.
Le ministre nous dit qu'il réfléchit. Aujourd'hui, les textes sont comme ça. Donc effectivement, il faut que les professionnels et les élus locaux, les élus du territoire, soient autour de la table. Et nous, ce que nous proposons, plutôt que d'avoir une loi qui continuerait de s'appliquer de façon verticale, d'aboutir à une contractualisation de projets, une contractualisation d'opérations entre les élus locaux, les opérateurs, voire les propriétaires fonciers, les habitants, c'est-à-dire une contractualisation territoriale, et puis qu'on puisse avoir des projets qui intègrent les fonctions des sols, qui intègrent les objectifs climat, les objectifs de résilience, et également la question du carbone, la question des mobilités. Donc on est une vraie contractualisation de projets territoriaux.
Co-réalisation, j'ai l'impression, ça dépend aussi beaucoup des territoires.
On appelle ça une vision d'aménagement du territoire.
Exactement.
Et c'est ce qu'on n'arrive pas à avoir quand on est dans une vision strictement comptable avec une règle générale que tout le monde découvre après coup.
Ouais,
absolument. Et donc ça, c'est absolument capital. Il faut qu'il y ait des exceptions. Ça vaut pour les parcs et jardins, ça vaut pour les hébergements touristiques aussi. Hein. Vous avez des campings, vous avez des...
Ça, c'est de l'artificialisation aujourd'hui.
C'est considéré comme des zones à urbaniser, donc ça n'incite pas à... Enfin, à un moment donné où des régions touristiques essaient de développer le tourisme de nature, c'est de quoi tuer la filière avant même son développement. Donc ça, c'est capital. La discussion et le dialogue avec les collectivités locales, il doit être prioritaire et il faut... éviter une situation où la règle générale finit par transférer tout le pouvoir aux préfectures et aux directeurs départementaux des territoires dont les appréciations sont parfois divergentes d'un département à l'autre.
François, sur une question.
Moi, je serais entièrement d'accord. C'est-à-dire que ce qui doit prévaloir, c'est le projet du territoire. Et ce qu'il ne
mais
faut
quelle,
pas...
à quelle échelle, en fait il Parce que c'est au niveau
alors,
de la mairie, du territoire, de l'intercommunalité.
Aujourd'hui, la loi fixe comme périmètre les SCOT, c'est-à-dire un ensemble d'intercommunalités. On est bien sur le bloc communal, commune, EPCI, qui se regroupent. Lorsque les SCOT sont petits, puisqu'ils peuvent beaucoup varier de taille, on peut travailler entre SCOT. Il peut y avoir des échelles de coopération un peu plus importantes. Mm-hmm. Donc l'échelle de coopération, elle va dépendre des territoires. On ne va pas pouvoir donner une maille universelle sur tout notre territoire, mais il faut qu'elle s'adapte au bassin de vie, aux véritables réalités du quotidien. Donc ce qui doit prévaloir, ce n'est pas le compte arithmétique, mais bien le projet et, je dirais, le modèle économique qui permet d'atteindre le projet. Parce qu'effectivement, réhabiliter des friches ne coûte pas le même prix. Densifier. Les friches sont-elles là où on en a besoin ? Faut-il les renaturer ou au contraire faut-il les utiliser, soit pour de l'économie, soit pour de l'habitat ? Où peut-on densifier ? Comment est-ce que, quelles sont les formes urbaines qui le rendront acceptable ? Parce que l'acceptabilité, c'est un élément extrêmement fort. Au moment où finalement nos populations, après la crise sanitaire, veulent vivre en campagne avec un jardin, on leur dit on va rehausser d'un étage les immeubles. Bon, je caricature, mais ce n'est pas d'une évidence absolue. Et on ne fait pas une loi sans que entraîner nos populations. Bien sûr, les SCOT, les documents d'urbanisme sont des documents techniques, mais la réalité, elle est tout à fait concrète pour chacun de nos habitants. C'est-à-dire acheter son logement est un élément majeur dans une vie familiale et on en rêve et il faut que la réalité soit souvent un compromis avec le rêve mais soit acceptable. Et ça, c'est extrêmement important pour la cohésion sociale de nos territoires. On ne fait pas une réforme comme ça contre nos populations. Il faut vraiment le faire avec eux.
Notamment, vous l'avez dit, hein, se loger, ça reste quand même une fonction et même un besoin essentiel. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas adressé. Je le disais tout à l'heure, les aménageurs, les promoteurs ont du mal à trouver ce foncier. Beaucoup de projets sont bloqués. Et est-ce que vous voyez des signes d'amélioration, Nicolas Gravitte, ou est-ce que la situation actuellement est un peu figée ?
J'ai l'impression que les choses s'améliorent un petit peu depuis quelques mois. Parce que je pense qu'un certain nombre d'élus sont en train de se rendre compte que bloqués parce qu'on a peur de la densité ou bloqués parce qu'on est contraint par des normes, au bout d'un moment, les habitants sont là, ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin de travailler, effectivement. On parlait de réindustrialisation du pays. Donc aujourd'hui, je ressens une petite appétence pour certains élus pour se relancer dans quelques projets urbains un peu importants. Mais on le constate surtout... d'ailleurs sur les zones qui sont plutôt en périphérie plutôt que dans les grandes métropoles. Je mets le cas de l'Île-de-France à part parce que c'est vraiment un sujet très particulier. Oui. Mais en région, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt les villes moyennes ou les villes de périphérie qui essayent de lancer des projets parce qu'il y a des besoins, il y a des attentes des habitants. Et je pense qu'avec une pratique vertueuse de l'aménagement du quotidien, du travail, au-delà même des exigences réglementaires, on peut arriver à concilier tout ce qu'on doit faire pour faire un quartier vivable, donc avec des équipements publics, des services pour les habitants, pour faire venir la biodiversité sur ces secteurs-là. Enfin, c'est pas parce qu'on est une extension urbaine qu'on peut pas faire revenir la biodiversité dans les villes. Et on a beaucoup les aménageurs ont beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Donc c'est faisable, c'est possible, mais il faut convaincre. Il faut convaincre nos élus d'y aller et à nous de faire l'effort. Et il faut aussi, là j'y tiens, parce qu'on dit toujours refaire la ville sur la ville, retravailler sur les friches, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Effectivement, il faut le coût de la dépollution, le coût du désamiantage, etc. Ça coûte cher. Mais à la base, il y a un prix de foncier avant de faire tout ce travail de dépollution. Et si ce prix de foncier est en inadéquation avec ses coûts de dépollution et d'aménagement, effectivement, on n'y arrivera pas. Donc on a un vrai sujet aussi sur la valeur du foncier. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça,
et puis c'est un service, plus on construit, plus le foncier va augmenter, exactement. Etc. François Ruessec, vous qui êtes président de l'UNAM, qu'est-ce que à court terme, là, quelles sont les propositions que vous faites pour débloquer la situation ou améliorer cet état de fait ?
Bien, écoutez, nous avons deux propositions concrètes. C'est d'une part aboutir à une contractualisation de projets qui pourrait être une nouvelle forme de contrat d'urbanisme entre les élus locaux, le territoire, les opérateurs, voire les propriétaires fonciers. Ça serait un contrat antispéculatif d'urbanisation. Donc avec des densités, avec les fonctions, ouais, avec tout ce dont on a parlé, qui convient aux différents types de populations. Et puis, le deuxième projet, c'est le permis d'aménager bioclimatique, c'est-à-dire un permis qui intègre le net du ZAN, hein, du zéro artificialisation net, c'est-à-dire qui intègre les fonctions des sols, les fonctions qu'on veut protéger, dans l'opération elle-même, c'est-à-dire qu'on est de la résilience climatique, de la biodiversité, de l'agriculture urbaine, etc. Et nous sommes en train d'avoir un certain nombre d'opérations expérimentales qui montrent que c'est possible, c'est, oui, quantifiable, c'est vérifiable, et on est sur des pratiques qui permettront de concilier cette vision de la qualité des sols, du territoire et de la vie avec des projets d'urbanisme qui continuent à bien loger les Français comme ils le souhaitent. Car aujourd'hui, on est dans le blocage, on est dans une dualité entre ce qui serait une ville qu'on ne cesserait de densifier et puis une campagne où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc il faut sortir cette dualité et intégrer une vision de la vie sur ce partage de projets élus et opérateurs.
Et oui, surtout avec des Français qui, même si on le sait, sont attirés par la ville, à un moment font face aussi à ce qui se passe au niveau de leur porte-monnaie. Et Dieu sait si en ce moment c'est compliqué, notamment avec les factures qui augmentent du côté de l'énergie. François, vous aussi, question simple, hein, justement, quelles certaines propositions de la part de l'UNAM, quels sont les votes pour débloquer la situation ?
Pour nous, je pense qu'il faut avoir une hiérarchisation des projets nationaux, régionaux, locaux, avoir une réflexion aussi de façon essentielle sur le modèle économique. Il faut que la fiscalité s'adapte, il faut, oui, que les régimes de subvention s'adaptent, le fonds friche, il faut qu'il soit augmenté. Comment demain pourrons-nous faire du logement social au coût du foncier actuel ? Et il y a un vrai enjeu sur la spéculation foncière, puisque ce qui est rare est cher, et en rarifiant le terrain, eh bien, on fait augmenter les prix parfois de façon extrêmement importante. Donc comment est-ce que demain on fera du logement social de qualité qui répond aussi à toutes les normes? Comment demain fera-t-on de l'accession à la propriété? Comment allons-nous inventer un modèle de manière à ce que nos entreprises puissent se développer, mais sur des terrains plus limités? Il faut inventer des modèles. Mais demain, comment est-ce qu'on va construire des pistes cyclables qui sont nécessaires à la décarbonation de la mobilité, mais qui vont artificialiser? C'est toutes ces questions, c'est toutes ces contradictions apparentes qu'il faut retravailler pour trouver des solutions ensemble, et on peut en imaginer.
Oui, avec une équation économique qui se durcit, hein, pour si les communes, grandes ou petites, hein, manque de ressources, explosion des dépenses d'une manière générale. En tout cas, beaucoup de vos des maires s'en sont fait l'écho aujourd'hui sur ce plateau.
Le grand héritage de la loi transition climat, c'est que moi, quand je l'ai vu adopter, c'était deux choses. C'est la fin du tarif réglementé sur l'énergie. Bon, maintenant, du coup, on en voit le prix, hein, les factures sont multipliées par 3, et puis le zéro artificialisation net. Donc merci aux législateurs, c'est quand même un grand succès. Nous, le sujet, c'est qu'au-delà des dispositions d'urbanisme, il faut aussi donner les moyens aux collectivités d'avoir une politique foncière. On n'a pas les moyens réglementaires de récupérer du foncier qui est bloqué, y compris d'ailleurs par des promoteurs qui sont parfois des spéculateurs, qui achètent des terrains puis qui les bloquent pendant des années. Nous n'avons pas les moyens de reconvertir un certain nombre de friches. Donc le fonds friche, quand il est ouvert, il est consommé en 10 jours, 12 jours. Oui. Donc il est totalement saturé. Donc il faut imaginer des projets des financements de long terme. Et puis par ailleurs, tout ça arrive à un moment où les collectivités locales vont avoir des moyens qui vont s'effondrer. Hein. Je crois que ce qui est en train de se passer là, avec le retour de l'inflation, va essorer les finances locales de façon assez méthodique. Et donc nous nous retrouvons sans moyens à un moment qui est celui de la transition énergétique, qui est, c'est-à-dire face à un mur d'investissement qui est absolument vertigineux et pour lequel il n'y a pas de financement. Donc ça vaut dans tous les domaines, et c'est très très préoccupant pour la suite, puisque la transition énergétique comme la transition écologique, il ne suffit pas de la décréter par des lois, il va falloir la mettre en œuvre concrètement et puis la financer aussi.
C'est très clair, c'était le coup de gueule de Harold Huvat, le maire de Nogent-le-Rotrou, président également notamment de l'Association des petites villes de France. Un grand merci à l'ensemble de nos autres invités, Françoise Rossignol, première vice-présidente de la Fédération des SCOT, Nicolas Gravit, directeur chez FH Aménagement, et François Ressec, président de l'UNAM. À très bientôt sur notre antenne.
Aménager demain, l'émission de l'aménagement durable et responsable en partenariat avec l'UNAM, à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.